Radio Canu présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Le vendredi, j'allais chercher Pascal derrière l'opéra pour l'emmener chez moi.
Je l'ai fait.
Sur le chemin, nous parlions de choses et d'autres. Nous allions être deux amis qui allaient passer une soirée amicale ensemble.
Ah, quelle joie de vous revoir.
Une fois chez moi, je l'ai emmené au salon. Elle lui demandait s'il voulait boire. Puis, après avoir parlé un peu et je le caressais, elle lui demandait s'il voulait aller dans ma chambre. Il était toujours aussi gentil, passif. Puis, leur accompagnait un bout de chemin. Tout cela était gentil et sans histoire. Un soir, je lui demandais, pendant que nous nous rhabillions, « Ça te gêne pas que je sois plus vieux que toi ?»« Non, j'aime bien les vieux. J'aime bien leur parler. » J'étais un peu triste de cette réponse. Il me voyait donc en vieux. J'avais dû vieillir et sortir de la jeunesse. Je n'osais pas me regarder dans la glace. Je n'en voulais pas à Pascal qui me voie vieux. Il avait dit cela et que ça ne le gênait pas d'être avec moi. Et puis, il n'avait que 18 ans. Un jour, sur le chemin du retour, il me parla de sa voisine. Elle est gentille, tu sais, elle s'appelle Douce, elle a de jolis yeux. Là, je compris qu'il n'était pas à 100% pour les hommes. Toi, tu vas te marier un jour, tu n'es pas comme moi, tu aimes les femmes. Pour toi, c'est un accident de parcours. Il ne répondit rien. Moi, j'étais triste pour moi, mais heureux pour lui. Car plus tard, il pourra vivre une vie normale. Il sera plus heureux. Le temps passait. Il me parlait souvent de sa petite amie. Un soir, il me dit qu'il vivait avec elle. Puis, pendant une période, je ne l'ai plus revue. Disait que c'était à cause de son ami. Un jour, il est venu me voir. Je l'ai reçu comme d'habitude à mon salon. Il m'a dit, si je ne suis pas venu, c'est que j'avais trop de choses à faire. Entre les examens et mon ami, je n'avais plus de temps. Cet été, je pars dans le midi, au bord de la mer. Ça nous fera du bien. Puis nous avons parlé de choses et d'autres. Au bout d'un moment, je lui ai mis la main sur les cuisses et monté. Il s'est dégagé. Pourquoi ? Parce que, laisse. Je l'ai laissé et nous avons continué à parler. Puis, il est parti. J'étais triste que nous n'ayons pu rien faire. Je me disais, la prochaine fois, ce ne sera pas pareil. Il est revenu, et là, ça a été la même chose. Il est revenu plusieurs fois, et il n'a plus été question que l'on refasse ce que l'on faisait. C'était comme si on n'avait jamais rien fait ensemble. Cela m'énervait, je me disais. Me prend pour qui ? Il veut faire passer nos rapports en amitié sans rien me demander mon avis. C'est lui qui décide et moi je dois suivre. Tout ça parce que monsieur a rencontré une fille. Puis, petit à petit, il n'est plus revenu. Tant pis, j'y pensais plus vraiment et je me faisais une raison. La vie continuait. Un soir, il est venu me voir. Je vais avoir un enfant. Félicitations. Il était entré dans le moule, devenu comme tout le monde. Le temps passait. Je pensais souvent à lui, mais comme une personne qui était passée dans ma vie. Thank you. Un an plus tard, je fus surpris de le revoir. Une fois assis au salon, il était gêné. Je lui demandai, « Alors, que deviens-tu ?»« Ça va. » Et le petit, il grandit. Je sentais qu'il n'allait pas bien. Mis ma main sur sa cuisse, il se dégagea. « Qu'est-ce que tu as ? Tu as des ennuis ?» Il ne disait rien. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux tout me dire. Allez, dis-le-moi. » Il me dit. « Il y a à l'université une jeune fille. On se plaît. » J'étais surpris. « Ah ? Oui, et on n'y est pour rien. On est toujours ensemble. » Je lui dis. « Qu'est-ce que tu veux ? Ce sont des choses qui arrivent. Mais fais attention, tu as une famille. Ne leur fais pas de mal. » Soupirait et dit, c'est-à-dire qu'avec ma femme, je ne suis pas comme il faudrait. Je pense à l'autre, et puis il y a le petit, beau petit bout de chose, qui n'a rien demandé. Je lui dis, je vois que, je sais, c'est dur, mais il faut que tu laisses tomber. Pense à ta famille. Tu te rends compte que ça va, si elle le savait, ce sera dur. S'ils apprenaient ça, et la fille, elle vit seule? Non, elle est mariée à un enfant. Oh là là, laisse tomber. Tu vas voir tes ennuis. Mais le mari est aussi au courant, ça ne le gêne pas, je lui dis. Fais attention, ça sent le traquenard. Et puis, si ta femme apprend ta liaison et qu'elle demande le divorce, tu vas te retrouver avec deux familles sur le dos, ton ancienne femme et ton enfant. Et en plus, tu devras leur payer une pension, plus ta femme, hein, ta nouvelle femme. Comment vas-tu faire pour vivre avec tout ce monde ? Il ne me répondit pas. Après une minute de silence, il me dit, « Elle habite dans ton quartier, elle est très bien, je te la montrerai, tu verras. » J'étais surpris, il ne m'avait pas présenté sa femme légitime et voulait me présenter sa maîtresse. Il se leva. Il me dit, il faut que je parte. Je lui dis, surtout fais attention à toi. Il ne faut pas te laisser aller dans une histoire pareille. C'est une seule histoire. Il soupira et me dit, mais je l'aime, tu sais. Et il partit. Je me disais, voilà encore une personne qui s'est mariée sans vraiment aimer et connaître les femmes. Maintenant, après avoir fondé une famille, il veut et ne pense et ne rêve qu'à la quitter pour aller vivre avec une autre fille. Les jours passaient. Un après-midi, l'on sonna chez moi. C'était lui, avec une fille de même taille que lui. Très belle, mince, des cheveux mi-longs qui ondulent, un visage de poupée. Vraiment une belle fille. Il me dit, « Bonjour, je te présente Nathalie, mademoiselle, monsieur. » Je les faisais rentrer et mener au salon. Une fois qu'ils étaient assis tous deux sur un canapé, « Vous voulez boire ?» Il me dit, « Oui, merci. Bourbon ?» Oui. Je les servais. Et allais m'asseoir en face d'eux. Il me dit, « Nathalie cherche un emploi. Ah, dans une banque, la tienne n'embauche pas ?»« Pas précisément, non, et c'est difficile d'entrer dans une banque, mademoiselle. »« Non,
Madame, madame a-t-elle des diplômes ?
Non, j'en ai pas.
Eh bien, je crains que ce soit impossible. Il vous faut choisir un autre emploi. La conversation s'éternisait. Je me demandais pourquoi ils étaient venus. Pascal semblait heureux. Puis, ils sont partis. Je me disais, ils sont complètement fous ces deux-là. 3 jours plus tard, Pascal vint me voir seul. Il me demanda, « Comment la trouves-tu ? »
« Très bien, très belle, et je comprends ta passion pour elle. Je comprends parfaitement bien, malgré que je ne connaisse pas les femmes. On peut dire qu'elle est belle. »
« Ah, tu vois, je te l'avais dit. »
Je lui dis, « Oui, mais fais attention, ne fais de mal à personne. »
Il me dit, « Écoute, j'ai quelque chose à te demander. Voilà. Tu comprends, Nathalie et moi, on ne peut se voir seul. J'ai toujours... C'est toujours à l'université. Alors, on aimerait bien de temps en temps être tranquille. Tu comprends ?»
Je ne dis rien. Il continua.
« Voilà, j'ai pensé à une chose. Est-ce que tu accepterais de me prêter ton appartement l'après-midi et lorsque tu n'y es pas, pour qu'on puisse être avec ensemble, moi et Nathalie. Tu comprends, ce serait plus commode. Tu habites pas bien loin de chez elle. Alors, qu'en penses-tu ? »
J'étais subjugué.
Comment osait-il proposer cela à moi qui ai été durant de nombreux mois son ami, son amant, pour dire la réalité. Non seulement il me faisait cocu, mais il me demandait de le faire chez moi.
Et les ennuis que je risquais d'avoir si sa femme l'apprenait, la police, le tribunal et tout. Je me disais qu'il était vraiment naïf ou que l'amour l'avait rendu idiot. Il était là, qui attendait ma réponse. J'avais malgré tout pitié de lui. Je décidai de lui donner ma réponse par écrit, d'une façon sans passion, claire et nette, en lui expliquant le pourquoi de mon refus, sans le brusquer, et lui disant qu'il allait vers des ennuis, et moi aussi, si j'acceptais, de le suivre. « Je dois réfléchir, je te donnerai ma réponse par lettre. » Il était surpris. Je lui dis, « Tu comprends, il faut que je pense aux clés et aux heures libres. » Il est parti rassuré.
Je me disais tout d'un coup que l'histoire, la grande, la vraie, celle des peuples, allait nous happer et mettre en cendres tous nos projets personnels. Pour lui comme pour nous tous, demain ou le lendemain, il va se réveiller dans la masse d'un peuple, le bloc d'une nation. Adieu pour lui et Nathalie. Dans la nuit, je me suis réveillé. Je voulais hurler une dernière fois mes désillusions de ma vie passée et prier. Demain, il sera trop tard. Et puis aussi, tous mes souvenirs sont venus en bloc pour me crier mon échec, échecs sentimentaux d'amour. Je sentais aussi que l'on m'avait traité comme un imbécile, un pas grand-chose, et je voulais crier ma colère, car je me disais que je ne méritais pas tout cela, tout ce qui m'était arrivé. Je me levais pour sortir de ma chambre en chemise de nuit pour aller à mon bureau.
Là, j'éclairais la lampe de la table. Pris dans un tiroir, un cahier vierge. J'avais la fièvre. Je sentais que ma vie avait été un échec, que les plus belles années de ma vie étaient passées et que tout n'avait été que désastre, que je m'étais enflammé pour des choses sans importance, des personnes qui s'étaient pour la plupart jouées de moi et qui avaient abusé de mes bontés. Je n'avais jamais été aimé.
Et dans mes yeux, sous le ciel noir, la joie se lève. Un peu d'espoir en toi, un peu d'amour en vous, un simple adieu, un au revoir, et puis bonsoir.
Maintenant, à mon âge, j'étais seul, sans amis, sans famille, ou presque. Je faisais mon travail, un travail médiocre. Je n'avais rien à moi. Vie ratée, perdue. Pourquoi? Parce que j'ai cherché en premier l'amour, car je croyais que c'était la chose essentielle de la vie. Et j'ai raté ça, j'ai tout raté. Après avoir pensé à tout cela, je me dis, je veux laisser une trace de ce que j'ai vécu pour que ma vie ne soit pas qu'un passage. J'ai ouvert le cahier, pris un porte-plume, et commencé à écrire, en décrivant ma colère sur ceux qui m'avaient fait rater ma vie. J'en ai assez. L'on me prend pour qui? Pascal, qui était, n'est pas si longtemps de cela, mon amant, me demande de lui prêter mon appartement pour des fredaines avec sa maîtresse. Frédéric me regarde avec mépris et dégoût. C'est tout juste s'il ne me traite pas de pervers. J'ai envie de lui crier que je n'ai pas fait cela tout seul. Les derniers temps, il avait été dédaigneux avec moi. Il sonnait, me disait ni bonjour ni rien, entrait, enlevait sa veste sans rien dire et allait dans la chambre. Toujours sans rien dire, il se déshabillait et restait debout. Puis, plus tard, c'est seulement allongé sur le lit, sous moi, qu'il commençait en jouissant à parler, ou plutôt à pousser des cris, et disait des phrases que l'on dit bêtement dans ces cas-là. Puis, se relevait, s'habillait sans un mot, et partait sans rien dire. C'était comme s'il était venu voir une pute. Moi, je restais sur ma faim, mais je m'en moquais, du moment que j'avais touché son corps jeune et beau. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. Il me maîtrise, me rejette, il ne veut plus me revoir. Pourquoi ce mépris? C'est pourtant lui qui venait de lui-même me voir. C'est lui qui choisissait le jeu. C'est bien lui qui me faisait mettre un manche de porte-plume dans le cul. Ça me dégoûtait. Il y a 7 ans, c'est lui qui est venu me voir de lui-même et qui voulait et qui savait pourquoi il venait. Alors, pourquoi?
Oh.
Pascal, qui revient me voir après plusieurs mois, comme si c'était rien passé entre nous, comme si je lui avais pas dit mon amour, comme si je ne lui avais pas dit qu'il pouvait me faire souffrir parce que je l'aimais. Il me parle sans s'inquiéter à savoir si cela me faisait souffrir de sa maîtresse qu'il aime et qu'il désire, et me demande en plus de l'aider pour qu'il puisse se voir en toute intimité. Et il faut que j'accepte et que je l'aide à me faire cocu comme si c'était normal. Je dois toujours me plier aux caprices des gens, sans rien dire, ni demander quoi que ce soit. Ça leur paraît normal. Pour eux, je ne suis pas un être humain qui est capable de souffrir, mais quelqu'un qui rend service. On se sert de moi comme d'une pute, puis gentiment, ou avec mépris, on s'en écarte. C'est toujours si on demande mon avis. Savoir si je souffre, ils ne s'en préoccupent pas. Quand ça leur plaît, je dois devenir leur confident, ami et les aider. Ils se fichent de ce que je ressens. Ce qui compte pour eux, c'est que je sois à leur disposition, ami ou amant, suivant ce qu'ils désirent. J'en ai assez. Moi aussi, je n'en peux plus. Qui s'inquiète de moi? De savoir si je n'ai pas des soucis. Moi aussi j'ai des peines. Des peines. Ce serait trop leur demander. Oui, je sais. Je suis vieux, laid et pas très drôle. Mais j'ai toujours été laid et vieux de tempérament. Et même lorsque j'étais jeune, c'était la même chose. Ce qui fait qu'à mon âge, j'ai jamais été aimé. Jamais. Je vais mourir sans que personne ne m'ait aimé, désiré. J'ai jamais vraiment fait l'amour, car j'ai toujours eu un arrière-goût de dégoût et d'amertume, de tristesse et même d'ennui. Parce que mes partenaires que j'ai ne m'aimaient pas, je le sentais. Ils étaient dans leur plaisir solitaire et me laissaient dans ma solitude. J'ai dû m'en contenter pour ne pas mourir d'être rejeté des hommes. Je me suis toujours senti à part à cause de mes goûts, de mon physique, de ma sensibilité, de ma timidité. La plupart des gens me rejetaient, je les ennuyais, je ne me sentais pas avec eux. Ma sexualité m'a encore plus marginalisé. Au lieu de dire marginalisé, je devrais dire plutôt replié sur moi-même, isolé. J'étais mal à l'aise avec les gens dits normaux et avec les autres aussi, car ils me rejetaient parce que j'étais laid, faisais vieux, ne m'habillaient pas à leur dernière mode, ne sortaient pas, n'acceptaient pas certains côtés de leur sexualité brutale, ils me confiaient peu ou pas. La plupart des personnes que j'ai aimées et avec qui j'ai eu des rapports étaient des gens normaux ou semi-normaux, et même des gens mariés avec enfants ou se sont mariés après m'avoir connu, et leur mariage ne les ont pas empêchés de me revoir. Ils étaient jeunes, très jeunes et beaux, et vous pouvez me croire, car j'ai du goût. Plutôt le côté juvénile, mince, les traits fins et délicats, avec une peau très blanche et des cheveux châtains clairs. Mais pas folle, normale. Oui, moi le vieux, le moche, le rejeté, j'ai eu ce que beaucoup de beaux et dédaigneux pervers n'ont jamais eu. Et oui, mais c'est comme ça. Il faut que j'arrête de divaguer et dire « Oui, c'est vrai, ils étaient beaux. » Mais cette beauté de façade me cachait que mes souffrances. Car moi, j'aurais voulu qu'il m'apportât aussi autre chose. Vous me direz que certains ont voulu Ils sont restés, si l'on veut, des amis et confidents. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Mais j'aurais voulu quelque chose de plus. Ce quelque chose que je ne connaîtrai jamais. L'amour. Et qu'ils comprissent que je souffrais et aimais à cause d'eux. Mais non, pour la plupart, c'était quelque chose que l'on se servait tout naturellement, sans faire vraiment attention à moi. Je ne suis pas satisfait de ce que je viens d'écrire. Cette nuit, je me suis réveillé avec des phrases toutes faites. Je criais mon angoisse, ma colère aussi et ma peur. Je disais qu'on me prenait pour qui, qu'on se servait de moi, que je ne comptais pour rien, que personne ne m'avait aimé. Cette colère, cette fureur, cette angoisse m'avaient donné envie d'être mis par écrit. Mais je me suis rendormi. Puis j'ai travaillé, puis j'ai écrit. J'ai relu ce que j'ai écrit. Je ne retrouve pas ce que j'aurais voulu y mettre. Mes pensées, mes phrases se sont oubliées et ne reste écrit que l'amertume. Alors j'essaye de décrire ce que je ressentais. Mais c'est envolé. Je sens, c'est que ce que j'ai essayé d'écrire cette nuit s'est raté. Peut-être en écrivant la suite, je retrouverai et décrirai vraiment ce que je voulais vraiment exprimer. Recommençons à écrire. Tout a commencé ainsi. Pendant très longtemps, j'étais spectateur du monde que je ne comprenais pas, inactif et ne cherchant pas à l'être. J'étais à part, comme un être d'une autre planète qui regardait les êtres humains. J'avais une mère possessive, toujours malade, un père toujours absent à cause de son travail. Je suis arrivé à l'âge de 16 ans sans camarades ni amis. Mon corps souffrait de cette solitude et souhaitait s'épancher. Sur le chemin qui me ramenait à ma maison, après l'école, à la tombée de la nuit, je rêvais d'une grande amitié. Mon cœur hurlait. La nuit, dans mon lit, je me masturbais sans objet déterminé. D'ailleurs, je ne connaissais pas le sexe inverti. Mais ce dont j'avais le plus besoin, c'était de quelqu'un sur qui je puisse porter mon affection. Un ami m'était venu tout naturellement à l'esprit, mieux qu'une jeune fille, car je vivais dans un monde de garçons où les filles n'étaient pas, et elles m'impressionnaient un peu. Je le voulais, un peu plus jeune que moi, beau, intelligent et riche. J'ai toujours souhaité avoir des gens riches près de moi pour pouvoir être fier d'eux. Que j'ai rencontrés à des époques différentes ont été plutôt des rêves. Des êtres que j'ai plus imaginés que connus, plus aimés que désirés. Des anges qui sont passés dans ma vie et dont je suis resté fidèle, mieux qu'avec ceux avec qui j'ai eu des aventures. Ce sont sûrement ceux que j'ai vraiment aimés. Thank you. Tout a commencé lorsque j'avais 16 ans. J'étais au début du XXe siècle. J'habitais chez mes parents à Lyon, boulevard des Belges. J'ai eu le temps de finir. Demain, je pars à la guerre. J'ai l'impression que c'est la fin d'un monde. Voilà 2 ans de guerre atroce, de guerre terrible. Certains sont partis avec la flore au fusil. Maintenant ils savent. C'est la mort, la boue, la merde, le sang, les cris, les rats, la faim et toutes les douleurs. Nous ne ressemblons plus à des hommes, mais à des mannequins disloqués. L'avant-guerre nous paraît loin, loin. Mais on n'en parle presque jamais. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Depuis le début de la guerre, j'ai pensé qu'une seule fois à ceux que j'ai connus. Pour moi, tout ça, c'est du passé, fini, rasé. Je reçois de temps en temps des nouvelles de mes parents. Mais ce qu'ils me disent ne m'intéresse pas. J'ai changé. Je ne suis plus le même. Le passé est mort, mais l'avenir n'existe pas. Et je n'ai plus besoin d'avenir. Quelque chose me dit que la paix ne me vaudra guère mieux. Je ne pense à rien, me laisse guider par les autres. Avec la guerre, je suis devenu comme tout le monde. Nous sommes tous dans le même enfer. Cette guerre de tranchées qui nous fait vivre dans la terre, nous fait sentir, toucher cette terre pour qui nous nous battons, qui nous protège dans son sein comme une mère. Les jours passent, passent.
Traitor. che c'hai paura? Beh, che fai tu? Entra o esci, figliuolo. Sulla porta non si può stare. Mademoiselle!
Je n'aime pas aller à l'arrière.
Au salon!
J'y vais pour faire comme tout le monde, mais jouer aux soldats qui cherchent à s'amuser, à aller avec les filles, etc. Très peu pour moi. Moi, je reste dans mon coin. Tu te vois forcé, très peu pour moi.
Ciao, bien. A questo.
La guerre sur le front, c'est le plus vrai. On ne joue pas. Je me suis durci. J'accepte la douleur, l'horreur. Comment faire autrement? Là, on n'est entouré que de cela. Comme c'est dur à tuer le siècle précédent et à faire entrer l'autre. Le temps passe. Mes rêves sont sans histoire. C'est normal, puisque je n'en ai plus. Je suis épuisé. J'ai plus rien. Plus rien dans ma tête. Vidé. On vous fait sortir des tranchées. Nous sommes 50 avec baïonnette à la main. Avancez, droit devant vous. Nous sommes sortis de la tranchée. Le ciel est noir, les balles sifflent de tous les côtés. Je vais droit devant moi, comme on me l'a dit. J'entends des cris, du bruit, de la fumée. Je sens près de moi des hommes qui tombent. Je vais droit devant moi, sans réfléchir. Je n'y peux rien, je ne pense pas, j'avance. Au bout d'un moment, je me sens isolé. Regarde autour de moi, personne. Au loin des cris, la fusillade, le ciel rouge. Je m'étais éloigné de tout ce champ de bataille et me trouvais en dehors de tout. Tourne autour de moi, réfléchis pour savoir ce que je dois faire. Continuer droit devant moi ou retourner vers la bataille. On m'a dit d'aller droit devant, c'est ce que j'ai fait. Je me disais que je devais, que je n'avais qu'à continuer, puisque c'était les ordres. Et quelque chose me disait que puisque les autres sont bloqués là-bas, il fallait y aller aussi. Justement, je décide de retourner, j'entends « À l'aide! À l'aide !» Je suis surpris. Je tourne autour pour voir d'où venait cet appel. Qui appelle ? « À l'aide! À l'aide! À l'aide !» La voix résonnait d'un trou d'obus. J'y vais. Il y a là un soldat à terre, noir debout, du sang sur sa vareuse. Il me voit, me dit « Penche-toi ! » Je me penche, vais vers lui et il me dit « Je t'en supplie, aide-moi à mourir, aide-moi à mourir, je t'en supplie. » Je suis paniqué par cette phrase. Regarde malgré moi autour de moi. Puis, pour trouver de l'aide ou un conseil, je t'en supplie, aide-moi à mourir.
Je souffre trop. J'étais paniqué, les larmes aux yeux. Je sus quoi lui dire. Je t'en prie, c'est trop dur seul. Tout à coup, je levai les bras pour tendre la main. Les rayons de la lune éclairèrent cette main. Je compris et la serrai très fortement. Le soldat me sourit et mort. Je garde la main quelques secondes dans la mienne. Avec mon autre main, je lui ferme les yeux. Puis, lâche la main. Je suis très ému. Je l'ai aidé à mourir. Puis, je veux savoir qui est cet homme. Peut-être pour prévenir sa famille. Je fouille doucement dans ses poches et trouve dans la poche revolver de sa vareuse son portefeuille. Le prend, l'ouvre délicatement. Et lit sur sa carte d'identité son nom. Didier H. Comédien. Je ne savais plus où j'en étais. Je venais d'assister et d'aider à mourir mon premier amour. Le seul amour de ma vie. Je restais là, sans penser, près de lui. C'était la dernière personne. J'étais la dernière personne à toucher Didier. Cruelle, cruelle vie qui fait rencontrer l'être que j'ai le plus aimé pour le voir mourir. Et à moi, que dois-je faire ? Tout est fini. Ma vie est comme tout ce qui m'entoure. Un grand cimetière. Un très grand cimetière. Que fais-je debout, vivant, au milieu de tout ça ? Je regardais Didier sans vie, dans un trou sale, se confondant avec la terre. Il n'a pas su qui j'étais, n'a pas appris mon amour. Je suis la dernière personne qui lui a parlé. Je me dis, j'ai souhaité durant toutes ces années que le destin nous réunisse. Je reste avec toi, puisque je suis près de toi. Je n'ai plus d'avenir. Le passé est fini. J'ai tout écrit, dit, sur ce que j'ai été. Je suis un homme fin maintenant. Homme fait, homme mort. Au loin, l'on entend le combat gronder. Je reste debout au milieu de cette plaine délabrée, près du corps de Didier.
Thank you.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime, dont c'était la 15e partie. Mémoire intime, 15 heures d'émission, 3000 mètres de bande magnétique, 400 pages dactylographiées, 50 heures d'enregistrement, 400 heures de préparation, mise en scène, Julien Jean-Pierre, scénario, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.